Bonjour à tous. J'espère que vous appréciez à nouveau la chaleur. Ouah, il fait chaud. Il ne fait pas chaud, il fait chaud. Nous sommes dans l'Ohio, mais ce n'est pas désagréable. Nous avons toutefois besoin d'un peu de pluie. J'ai commencé cette série pour prouver l'existence de l'Église. On pourrait dire qu'il s'agit d'une série en trois parties, qui examine comment, lorsque vous êtes baptisé, vous devez vous concentrer sur trois choses différentes. Vous devez prouver que la Bible est la parole de Dieu, prouver que Dieu existe, et dans cet ordre, prouver que la Bible est sa parole, puis prouver où se trouve la véritable Église. Ironiquement, comme je l'ai dit dans le dernier message, on perd tout cela dans l'ordre inverse. On a tendance à oublier où se trouve l'Église, à abandonner la Bible, puis à finir par perdre Dieu complètement. Donc, comme nous l'avons fait dans la première partie, où nous avons prouvé où se trouve l'Église, nous allons aujourd'hui reprendre le flambeau et continuer à avancer sur cette voie en essayant de prouver ce qu'est la parole de Dieu, ce qu'est la Bible et pourquoi nous l'avons. C'est important. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, surtout avec le temps, considèrent comme acquis. Car si ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est qu'un livre d'histoire. Alors les promesses, les enseignements, les doctrines, les commandements s'effondrent. Si nous ne pouvons pas prouver que c'est la parole de Dieu, le fondement de ce que vous et moi croyons, et franchement de ce que des milliards de personnes pensent croire, en professant le christianisme, tout s'effondre. Vous avez besoin de l'Église pour vous montrer comment assembler les doctrines, mais vous avez besoin de la Bible pour que ces doctrines aient une source. Dieu ne parle pas aux êtres humains aujourd'hui. J'espère qu'à la fin de ce sermon, vous verrez ce livre sur vos genoux d'un œil un peu différent. Un peu plus, regardez-le avec plus de sincérité ou plus de sérieux. Comme c'est unique que Dieu ait composé ce livre, et nous allons l'aborder de différentes manières. Je ne pense pas aborder quoi que ce soit qui se trouve dans le livre Bible Sirotie. Vous pouvez donc aller encore plus loin. Mais j'essaie d'aborder le sujet sous différents angles, afin que vous repartiez en vous disant: c'est extraordinaire que ces quelque 750 000 mots existent et que nous puissions en tirer des enseignements. Certaines de ces preuves seront davantage des autopreuves, car elles font référence à elles-mêmes. Ce seront des preuves tirées de la Bible, qui confirment la Bible, mais à la fin du message, vous verrez que nous arriverons à un point où nous prouverons des choses impossibles en utilisant la Bible comme seule source de connaissance. Commençons donc directement au chapitre 1 de Luc. Luc chapitre 1, verset 1. Luc chapitre 1, verset 1. Puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, j'entends encore des bruits de pages, donc Luc 1, verset 1. C'est un livre vraiment difficile à trouver, je comprends. C'était le verset 1. Verset 2. Comme ceux qui nous les ont transmises, qui dès le commencement ont été les témoins oculaires et les serviteurs de la parole. Donc, des témoins oculaires. Il m'a semblé bon, à moi aussi, qui ai tout suivi depuis le commencement avec une parfaite intelligence, de l'écrire par ordre pour vous, excellent Théophile, afin que vous connaissiez la certitude des choses dont vous avez été instruits. Revenons à ce que sont les épîtres. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Avez-vous déjà écrit une lettre à quelqu'un? L'avez-vous postée? Et elle est arrivée à destination, peu importe comment? Vous pouvez même moderniser et parler d'un email. La plupart du temps, ces messages sont éphémères, temporaires. Vous écrivez une lettre. Si vous êtes quelqu'un qui conserve les lettres, vous la classez peut-être quelque part, mais elle reste cachée, disparue, la lettre est terminée. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec ces lettres, car c'est tout ce qu'elle était. Ce n'était que de simples lettres. Luc se concentre ici sur les témoignages oculaires qui se sont répétés à maintes reprises. Oui, si vous prenez du recul et adoptez une approche scientifique, vous ne pouvez pas utiliser la Bible pour prouver la Bible. Vous verrez que vous pouvez le faire, mais en même temps, ces éléments fondamentaux fournis par ces témoins oculaires viennent simplement renforcer l'image que nous allons construire. Passons à la première épître aux Corinthiens pour voir le point de vue de Paul. Chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Nous commencerons également ici au verset 1. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1. De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez, mais par lequel vous êtes sauvés, si vous retenez ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Vous pourriez l'oublier. Car je vous ai transmis, en premier lieu, ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Regardez comme c'est détaillé. Comme les détails sont précis ici. Si vous écrivez, à moins de savoir quelque chose, vous n'allez pas dans ce niveau de détail. Vous donnez les grandes lignes. Vous paraphrasez. À moins de bien connaître les détails spécifiques d'une chose, vous n'allez pas dans ce niveau de précision. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Après cela, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et enfin, il m'est apparu à moi aussi, qui suis né avant le terme. Il est arrivé plus tard. C'était une description détaillée, ou une visualisation, des moments où Christ a été vu dans les quelques années qui ont suivi sa mort, lorsque cela a été écrit. C'était quelqu'un qui connaissait les détails. C'est intéressant. Vous pouvez trouver d'autres documents anciens, appelez-les chrétiens, appelez-les comme vous voulez, car parfois on se demande s'il s'agissait de catholiques, de la véritable Église. Et parfois l'histoire rend les choses un peu floues dans certains manuscrits que l'on peut trouver. Mais il en existe quelques-uns datant de la fin du deuxième et du troisième siècle, donc vous entrez maintenant dans le deuxième et le troisième siècle, et un certain temps s'est écoulé, qui comprennent de grandes parties des épîtres de Paul. Et plusieurs d'entre eux contiennent même certains des évangiles. Vous vous dites, d'accord, pourquoi est-ce si important? Eh bien, s'il ne s'agit que d'une lettre, les gens ne la copient pas à l'infini et ne la distribuent pas un peu partout. Le fait que ces autres exemples le montrent prouve qu'il y avait quelque chose de plus à l'époque. On reconnaissait qu'elle était plus que de simples lettres adressées à des congrégations. Elles étaient également exactes. C'est ce qui est intéressant lorsque l'on parcourt cette histoire et les exemples. La précision des copies restait très bonne. Voilà pour Paul. Passons maintenant à Jean, chapitre 21. Encore une fois, nous ne faisons que construire ici. Jean chapitre 21. Nous commencerons au verset 24. Jean chapitre 21, verset 24. C'est le disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui a écrit ces choses, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, qui, si elles étaient écrites, seraient écrites dans un livre qui, je suppose, ne pourrait être contenu dans le monde entier. Il y avait tellement de détails sur la vie du Christ qui auraient pu être écrits et qui ne l'ont pas été. Mais dans un autre cas, Jean a dit, « J'étais là. Je suis un disciple. J'ai témoigné. J'ai été témoin oculaire de ces choses. » C'est fascinant, Et encore une fois, c'est l'histoire. Nous avons de petits fragments de papyrus, de tablettes de pierre ou d'autres objets qui apparaissent tout au long de l'histoire et qui nous donnent un aperçu de l'importance qu'on accordait à l'exactitude. Le papyrus de Rhineland date d'environ 125 après Jésus-Christ, soit un peu moins de 100 ans après la mort des. Il contient de larges fragments de ce récit évangélique, l'évangile de Jean. Encore une fois, il est exact. Comme cela circulait, tout le monde en a fait des copies. On ne fait pas cela avec une lettre. Même si vous recevez des lettres d'amour de quelqu'un à l'étranger, vous n'en faites pas des copies pour les envoyer à tout le monde. Ce n'est pas comme cela que cela marche avec les lettres. Mais pourtant, celles-ci ont été reconnues comme quelque chose de différent, de très différent. Puis, dans « C'est un autre type appelé Papia ou Hierapoli, de Hierapoli, au IIe siècle. » Je vais malmener beaucoup de noms dans ce sermon, je vous préviens. Pourquoi ne peut-il s'agir simplement de Pierre, Paul et Jean? Les historiens les font paraître plus intelligents, j'imagine. Au début du IIe siècle, à cette époque, Eusèbe, cet homme, a été cité ou mentionné par Eusèbe dans son livre. Je vais vous expliquer clairement. Il y a Papia. C'était un personnage du IIe siècle. Eusèbe a écrit Histoire ecclésiastique, l'un des premiers livres d'histoire. Mais il a cité et fait référence à Papia. Pourquoi est-ce spécial? Eh bien, ces citations provenaient directement de ce que Papia avait écrit dans son résumé en 5 volumes, qui a été perdu au fil du temps, mais ce livre d'histoire en contient des extraits. Il a donné des détails, et sa mission était de rendre compte de première main et d'enregistrer des entretiens avec des personnes qui avaient vu Christ. Les fragments racontent comment il a vu Marc, de mémoire, écrire ses évangiles. On pense que le Saint-Esprit ramène toutes choses à la mémoire. Il se souvenait donc de tous ces détails de mémoire, et cet homme, qui a été enregistré par une autre personne, a vu cela se produire. Il a vu Pierre. Il a essayé de rencontrer certains des autres. Je pense qu'il était un ami de Polycarpe. Ainsi, des individus qui ne sont pour nous que des noms dans un livre d'histoire, mais dont les fragments de l'histoire remontent jusqu'à notre époque moderne, nous permettent de voir comment la Bible a été rédigée. Il copiait toutes ses épîtres. C'était donc entre 60 et 130 après Jésus-Christ, à peu près à cette époque. Puis, deux ou trois historiens similaires, vers 120 après Jésus-Christ, notamment Pline le Jeune et Tacite, ont écrit dans leurs manuscrits à propos de ces chrétiens. Donc, en 113, 116 après Jésus-Christ encore une fois, nous sommes moins de 100 ans, 75, 80 ans après la mort du Christ. Il écrivait que ces chrétiens, comme il les appelait, tiraient leur nom et leur enseignement, je ne cite pas, d'un Christ récemment crucifié. C'était dans son manuscrit. Ces chrétiens suivaient ses enseignements. Il s'agissait de Christu, et il incluait même des détails sur ce qui s'était passé en Judée. Joseph, que la plupart d'entre nous connaissent probablement, historien juif, considérait Christ. Il était un peu plus loin en arrière, en 93, 94 après Jésus-Christ, quand cela a été écrit, mentionnant que Jésus était un homme sage qui avait été crucifié sous Pilate, reflétant les débuts de cette période de l'histoire. C'est incroyable. Il est si facile pour vous et moi de supposer, parce que je fais la même chose, je suppose simplement, d'accord, que Christ, il y a 2000 ans, existait, mais il y avait des individus qui se sont arrêtés et ont consigné des événements de sa vie en dehors de la Bible pour reconnaître et nous aider à comprendre qu'il existait d'une manière qui renforce la Bible. Mais encore une fois, nous ne faisons que commencer ici. Ce n'est pas destiné à le prouver. Je ne fais que poser le cadre et les fondations. Mais il existe d'autres témoins, dont l'un est un peu plus connu. Voyons voir ici. Allons au chapitre 4 de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Christ a également été témoin des événements qui se sont produits. Verset 1, Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Un récit familier. Et là, il jeûna 40 jours et 40 nuits, et il eut faim après cela, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand le tentateur vint, il dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais qu'a fait Christ? Quelle était l'importance du livre, des rouleaux à l'époque? Il répondit et lui dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dieu ne se promenait pas en parlant. La parole de Dieu, la connaissance de Dieu provenait, à cette époque, des rouleaux qui étaient conservés dans le temple, pris en charge, très précieux. Et Christ a dit, « Non, c'est ce que vous cherchez. Retournez au rouleau. » Passons au chapitre 19 de Matthieu. Chapitre 19 de Matthieu. Commençons au verset 3, Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens s'approchèrent de lui pour le tenter, et lui dirent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Il leur répondit, n'avez-vous pas lu? Même à ce moment-là, Christ continuait à se référer au rouleau, à la Bible, à l'Ancien Testament. N'avez-vous pas lu que celui qui les a créés dès le commencement les a créés mâles et femelles, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Deux choses ici. Dieu a non seulement validé les rouleaux de l'Ancien Testament, mais il a également validé sa création. Et il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament où il parle d'Adam, parle d'Avé, prouvant ainsi que l'Ancien Testament était factuel. Si quelque chose n'allait pas, si Dieu s'était trompé dans Ésaïe, ou si une partie du Deutéronome était inexacte à cause d'une erreur de copie, c'était le moment où Christ était là, Dieu sur terre, pour le corriger. Et il ne l'a jamais fait. Il s'est contenté de renvoyer sans cesse à l'Ancien Testament. Bon, il y en a encore un ici. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Encore une fois, nous sommes en train de prouver notre propre argument. Nous utilisons la Bible comme une preuve qui ne tiendrait pas devant un tribunal, mais elle sert à établir les fondements que nous examinons. Jean chapitre 10, verset 34. Le verset 34 de Jean dit, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ?» Il savait qu'il connaissait les rouleaux, la Bible, l'Ancien Testament. N'est-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit que vous êtes des dieux? Et s'il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et que l'écriture ne peut être annulée, ou relâchée ou dissoute, c'est ce que cela signifie. Une fois que les écritures sont établies, une fois qu'elles ont été canonisées, l'Ancien Testament, elles sont figées. Dieu dit, non, je ne laisserai pas cela arriver. Je suis Dieu. Je ne mens pas. Je ne change pas. L'écriture ne peut être annulée. Il y a donc des promesses inhérentes à cela. Mais encore une fois, nous n'avons pas encore prouvé la Bible. Si ce n'est pas la parole de Dieu, tout ce que nous avons lu n'est que simple histoire. Mais ce n'était pas le cas pour les gens de l'époque. La façon dont ils ont traité ces rouleaux pendant des milliers et des milliers d'années était unique. Ils les voyaient pour ce qu'ils étaient. Et encore une fois, nous allons établir des preuves que vous pourrez expliquer. L'importance de ces mots était fondamentale. Revenons au Deutéronome, où nous avons commencé notre explication. Deutéronome chapitre 31. Aux deux tiers du livre, vers la fin. Deutéronome 31. Je vais un peu sauter d'un passage à l'autre aujourd'hui. Deutéronome 31. Verset 24. 31-24. Et quand Moïse eut achevé d'écrire les paroles de cette loi dans un livre, il finit donc d'écrire tout ce qu'il avait écrit, jusqu'à ce qu'ils aient fini, Moïse donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, « Prenez ce livre, prenez ce que je viens d'écrire, et mettez-le dans le coffre de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il y reste comme témoin contre vous. » Il dit, « C'est tellement important que je veux que vous le gardiez à côté de l'arche. » Tout ce qui était écrit, tout ce qui avait été consigné. Dieu a toujours considéré la Bible et ce qu'il appelle, et ce que nous appelons, la parole de Dieu comme étant essentielle à ce que vous et moi avons comme fondement. Sans ces livres, nous n'avons pas le mode d'emploi. Nous vivons aujourd'hui dans une époque confortable. Il est tellement plus facile d'étudier la Bible avec les ordinateurs, la technologie, les traductions croisées et les tonnes de documents disponibles. Mais sans ces premiers manuscrits, sans leurs copies minutieuses à maintes reprises, nous ne serions pas arrivés à une époque où les informations peuvent être stockées, sauvegardées et archivées de manière permanente sous forme numérique. Imaginez génération après génération, assis là, à écrire des livres, à placer ces rouleaux dans les temples, à les ranger là où ils se trouvaient à l'époque, puis à pouvoir les conserver, les archiver et les contrôler. Beaucoup de choses se sont passées depuis, mais Dieu a toujours considéré que sa parole était solide, indissoluble et le fondement de ce que vous et moi faisons. Revenons au Nouveau Testament, deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Nous commencerons au verset 15. Verset 15 de la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Et considérez que la patience de notre Seigneur est le salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Encore une fois, ce ne sont que des lettres. Il est presque impossible pour vous et moi d'apprécier à quel point quelque chose d'aussi insignifiant a pris une telle importance, car nous le considérons comme la Bible. Nous le considérons comme la Bible canonisée de l'époque moderne, mais pour tous ceux qui étaient assis ici, ce n'était que des lettres. Ce n'était que des lettres. Mais même à cette époque, ils comprenaient. Et vous vous demandez si l'Esprit de Dieu les guidait. Bien sûr que oui, mais comment ont-ils pu comprendre pleinement ce que nous sommes sur le point de lire? Verset 16, comme dans ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des choses difficiles à comprendre. Certaines de ces écritures, que les ignorants et les instables tordent, comme ils le font aussi pour les autres écritures, jusqu'à leur propre destruction. C'est un mot énorme. Pierre vient de qualifier les écrits de Paul d'écriture. Comment les comprenait-il à l'époque? Il savait qu'il y avait là quelque chose qui donnait tout son sens au fait que, 50 ou 100 ans plus tard, ses écrits étaient copiés et distribués. On comprenait qu'il faisait partie des Écritures. Un simple mot dans la Bible change le sens que peuvent avoir les autres Écritures. Il n'est donc pas surprenant que les gens les aient conservés et qu'ils apparaissent dans des manuscrits et divers autres documents tout au long de l'époque de l'Église primitive. Car ils voyaient que ce n'était pas de simples lettres. Les épîtres n'étaient pas seulement des écrits destinés à une congrégation. Elles étaient inspirées par Dieu, nous le verrons plus tard. Elles étaient quelque chose d'inspiré, et les gens ont été inspirés à en prendre soin et à les préserver d'une manière différente. Revenons à la fin de la Bible, Apocalypse 22, tout à la fin. Vous le savez, mais il est intéressant de voir comment Dieu a conclu lorsqu'il est question de la canonisation et de la structure de la Bible. Apocalypse 22, verset 18, « Je le déclare à tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les fléaux qui sont écrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part du livre de vie et de la ville sainte. » C'est le point culminant, la fin du livre de l'Apocalypse, où Dieu dit « C'est fini, fermez le livre. » Il a été canonisé. C'est la Bible. N'y ajoutez rien, en référence spécifique à l'Apocalypse, mais vous pouvez appliquer ce concept à l'ensemble de la Bible. C'était achevé. Les Écritures étaient à leur place. Nous devons nous replacer dans le contexte. Ils n'avaient pas tout cela. Les documents n'étaient pas simplement reliés et posés sur vos genoux avec une belle couverture en cuir, que vous pouviez mettre dans votre sac et sortir à votre guise. Non, c'était des rouleaux qui devaient être conservés avec beaucoup de soin, sinon ils se désagrégeaient. Ils étaient stockés dans des conteneurs spéciaux. Les préserver était bien plus difficile que ce que vous et moi faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir des Bibles gratuitement. Vous n'avez même pas à y penser. À l'époque, c'était très, très différent. Comment conservait-il le Nouveau Testament? L'Ancien Testament était facile à conserver, car il se trouvait dans le temple jusqu'à ce qu'il soit saccagé. Et à l'époque, ils avaient mis en place des systèmes qui fonctionnaient depuis des milliers d'années. Mais qu'en était-il du Nouveau Testament? À l'époque, la plupart de ces écrits étaient considérés comme illégaux. On pourchassait les premiers chrétiens. Mais pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à conserver tous ces documents, à les copier et à les reproduire fidèlement jusqu'au XVIIe siècle, lorsque nous avons pu commencer à les imprimer. Avant cela, tout était fait à la main. Passons au psaume 12. Chapitre 12. Nous allons lire plusieurs versets que vous avez probablement déjà lus, mais nous allons mettre l'accent sur des aspects auxquels vous n'avez probablement pas pensé. En voici un que vous avez probablement, vous avez mémorisé celui-ci, ou du moins la dernière partie. Psaume chapitre 12, verset 6. Psaume 12, 6. Les paroles du Seigneur sont pures, comme de l'argent purifié dans un creuset, cette fois purifié. Combien de fois avez-vous dit, « Eh bien, la Bible a été purifiée cette fois. » C'est le verset, mais souvent, nous ne continuons pas avec le verset suivant. « Tu les garderas, ô Seigneur. Tu les préserveras de cette génération pour toujours. » D'où cela vient-il ? Cela vient du fait que les paroles du Seigneur sont pures. Dieu garde ses paroles. Il les préserve pour cette génération à jamais. Il n'est donc pas surprenant que nous ayons le livre que nous avons aujourd'hui et la précision avec laquelle il existe. Car Dieu a dit, « Je vais préserver ses paroles. Je vais les garder. Je veux m'assurer que le mode d'emploi que j'ai créé, ma parole, la parole de Dieu pour l'humanité, ne soit pas corrompue ou déformée, car toute autre publication de quelque nature que ce soit qui serait transmise de génération en génération serait lentement modifiée. Jouer au téléphone avec quelqu'un, jouer au téléphone avec cinq personnes et donner une phrase simple. Laissez-la se transmettre ou passer à travers un groupe. Puis elle vous revient et vous vous dites, « Mais qu'est-ce que c'est que cela ?» Car c'est ainsi que fonctionnent les humains, ils écrivent et transcrivent méticuleusement ce qui aurait pu être transmis dans des langues qu'ils ne comprenaient pas. C'est incroyable de penser à tout ce qui a dû être mis en place pour que la Bible reste la Bible. Mais là encore, Dieu dit que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a imposé. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous allons donc passer à Ésaïe 40. Encore une fois, nous ne faisons que poser les bases. Tout cela n'est que fondation. Nous arrivons à un point où nous allons franchir le cap. Vous n'y êtes peut-être pas encore, ou vous y arriverez peut-être un jour, mais les coïncidences et les improbabilités commencent à s'accumuler. Et vous vous dites, bon, c'est impossible. Vous y êtes peut-être déjà, mais cela continuera. Nous continuerons à construire jusqu'à ce que nous arrivions à un point où vous ne pourrez tout simplement plus expliquer les choses. Et il y a des choses que vous savez déjà, mais vous ne les considérez souvent pas en termes de structure de la Bible ou de preuve que la Bible est la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 40, verset 6, la voix dit, crie. Et il dit, que dois-je crier? Toute chair est comme l'herbe, et toute leur beauté est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, parce que l'Esprit de l'Éternel souffle dessus. Oui, le peuple est l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Nous parlons souvent de Dieu qui demeure éternellement, de la parole de Dieu qui demeure éternellement, de ce que Dieu enseigne. Et c'est vrai. Mais qu'en est-il de ce qui a été écrit? C'est tout aussi important, car nous ne pouvons pas enseigner à partir d'un document, d'enseignement ou de doctrine si nous ne disposons pas du texte original tel qu'il existe aujourd'hui. Ainsi, lorsque Dieu dit cela, ce ne sont pas seulement ses philosophies, ses approches, ses enseignements ou ses doctrines qui existent pour toujours. Elles existent, certes. Dieu ne change pas. Le livre lui-même existe aussi. Et il est précis. Si vous parcourez les manuscrits de la Mère Morte, vous verrez qu'ils ont fait des comparaisons très précises, en particulier avec Ésaïe, ce qui est tout à fait approprié puisque nous étions en train de le lire. Mais Ésaïe est très présent dans les manuscrits de la Mère Morte. C'est donc particulièrement intéressant dans ce contexte historique. Mais ils ont été écrits entre environ 200 avant Jésus-Christ et 68 à 70 après Jésus-Christ, soit sur une période de 270 ans. Si vous comparez cela à ce que nous avons aujourd'hui et à ce que faisaient les Juifs à l'époque, dans les écrits massorétiques et dans les langues originales, les manuscrits de la Mère Morte sont exacts à 95% par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. 95%. C'est remarquable. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que ce n'était pas 100%. Parce que si c'était 100%, on se dirait, oh, ce n'est pas grave. Mais le fait qu'il y ait 5% d'écart signifie que Dieu a permis que certaines choses changent. Mais il n'a pas permis que cela continue à changer, ou n'a pas permis que les changements se poursuivent, il les a retirés. Quelle que soit la manière dont Dieu l'a fait. Ce sont des erreurs de traduction dans les Bibles modernes. Dieu a permis que des choses différentes de ce qui était écrit dans les manuscrits de la Mère Morte, qui étaient plus précis, se retrouvent dans sa parole. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais la nature même de la copie aurait dû faire qu'avec le temps, elles deviennent de moins en moins précises. Mais ce n'est pas le cas. La précision d'Ésaïe est de 95%. Encore une fois, ces coïncidences ne cessent de s'accumuler, n'est-ce pas? Ce livre n'est pas l'Encyclopédia Britannica. Il y a tellement de choses à dire. Pensez à toutes les publications importantes que vous avez lues au fil des ans. Vous avez de gros livres, comme Guerre et Paix, de très gros romans ou des livres d'histoire. En général, ces livres sont écrits par un auteur principal, puis il y a des éditeurs et des correcteurs, mais il y a généralement un auteur, voire deux. Il y a une raison à cela. Vous avez une voix et vous êtes capable de suivre l'histoire. C'est comme tout. C'est comme un sermon. Si j'arrête un sermon à mi-chemin et que je donne mes notes à quelqu'un d'autre, cette personne va le prononcer et l'aborder d'une manière différente de la mienne. parce que chaque individu va le faire différemment. Cela peut être la façon dont il le dit, ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Prenez un livre écrit par 40 personnes au cours des siècles, et pourtant, il ne change pas. Il y a des moments où des centaines d'années passent et où aucun autre livre de la Bible n'est écrit. Cela signifie que des générations ont copié ce qui existait déjà. Puis quelqu'un d'autre est arrivé. Il y avait Esaïe et d'autres contemporains. Ils avaient une mission différente, mais ce qu'ils disaient correspondait. L'inspiration divine dans la Bible signifie que les doctrines n'ont pas changé pendant des siècles, plus de 15 siècles, avec 40 auteurs qui ont écrit plus de 3 ou 750 000 mots. Cela n'aurait pas été possible sans que Dieu dise qu'il allait les préserver. Elles n'ont pas changé, elles n'ont pas évolué. Il y a, selon la façon dont on les compte, 300, voire plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament concernant Christ, selon la façon dont on les répartit. Le fait qu'elle ait été consignée avec précision dans divers livres, certaines faisant référence à d'autres livres, d'autres n'ayant même pas de rapport entre elles, ou qu'elle ait été contemporaine, car cela aurait été la chose la plus difficile à réaliser avec précision dans elles. Si vous êtes contemporain d'un autre prophète, mais que vous n'êtes pas, disons, affecté à la même ville, le fait que leurs écrits correspondent est en fait plus inspirant que si vous viviez 100 ans plus tard, car vous aviez ces écrits à lire, dont vous pouviez vous inspirer. Mais vous aviez les deux. Regardez la nature de Dieu tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué, elle n'a pas été modifiée. La nature humaine. Des concepts fondamentaux pour vous et moi aujourd'hui, que nous tenons pour acquis, mais la seule raison pour laquelle nous les connaissons, c'est parce qu'ils sont dans la Bible. Et pour que les auteurs aient pu maintenir cette cohérence pendant des milliers et des milliers d'années, il fallait qu'ils soient inspirés. Il fallait qu'ils soient dirigés et guidés de l'extérieur. Le péché. Le péché est défini de tant de façons différentes par des gens qui n'utilisent pas la Bible. Il change et évolue, et le péché moderne, mais le péché est le même péché défini dans la Bible depuis la Genèse, quand ils ont commencé, la désobéissance à Dieu, au fur et à mesure qu'ils ont continué, et tel qu'il a été défini et façonné, et finalement, nous arrivons à la transgression de la loi dans le Nouveau Testament. Mais cela a toujours été clair et cela n'a pas changé. Et tout au long du livre, la récompense est restée la même. Se concentrer sur le royaume de Dieu. C'est presque difficile, je suppose, pour moi, de ne pas m'enthousiasmer pour le fait que des coïncidences se produisent. Bien sûr qu'elles se produisent. Mais que tout s'aligne, que tous les mots ne se contredisent pas, c'est un autre aspect de ce message unique. Il devrait y avoir des contradictions dans la parole de Dieu. Par nature, un bon auteur, un auteur exceptionnellement doué qui écrit une série de livres, doit revenir en arrière et trouver des erreurs qui se contredisent, ou des personnages qu'il a mal décrits, ou des aspects d'une histoire qui ont changé avec le temps. Nous le faisons avec nos propres souvenirs. Vous et moi racontons, comme vous l'avez entendu dire, des histoires de pêche. Ainsi, lorsque j'ai attrapé ce petit crapet arlequin, que j'ai attrapé dans le lac, et que vous racontez cette histoire 10 minutes plus tard, ce crapet arlequin que j'ai attrapé dans le lac prend de l'ampleur avec le temps, car c'est ainsi que fonctionne notre esprit. Nous embellissons et nous rendons les choses plus passionnantes. Mais si vous faites cela en écrivant la parole de Dieu, en copiant des parchemins ou quoi que ce soit d'autre, l'histoire, l'image, le sens, le message change avec le temps. Mais nous avons entre les mains un livre qui n'a pas changé au fil du temps, qui ne contient aucune contradiction. Chaque fois que nous en voyons un, c'est toujours intéressant, car il existe plusieurs traductions de la Bible. Nous utilisons bien sûr la version King James. Prêcher à partir de la King James. J'aime lire la New American Standard, car elle est très fluide et facile à lire. Mais même si nous avons des problèmes avec la traduction, il suffit de prendre une nouvelle Bible King James et de regarder certaines de ses traductions pour constater qu'elle corrige généralement la plupart des problèmes de traduction que nous rencontrons. Cela dit, Dieu l'a permis. Et généralement, lorsqu'il y a une contradiction, il suffit de revenir au sens original ou de consulter une autre traduction et de se dire, ah, d'accord, c'était juste une mauvaise traduction. Ou bien cette expression était une expression ancienne qui a aujourd'hui un sens différent. Comment un livre contenant autant de mots peut-il ne pas se contredire, ne pas présenter de divergence d'une manière ou d'une autre? Écrit au fil des siècles, voire des millénaires, par de multiples auteurs, le message est pourtant resté le même. C'est difficile à comprendre. À tel point que lorsque vous arrivez au Nouveau Testament, que font-ils dans le Nouveau Testament? Ils n'ouvrent pas une nouvelle voie avec les épîtres. Ils renvoient simplement à l'Ancien Testament, et souvent de manière imprécise. N'oubliez pas que vous pouvez adopter un point de vue différent. Vous avez donc tous ces auteurs du Nouveau Testament, tous les apôtres, Luc, et d'autres qui citent des versets de l'Ancien Testament de manière pour le moins libre. Ils paraphrasent. Mais pourtant, leur paraphrase ajoute au sens du message. Elles ne contredisent pas le message, ni l'expression, ni les versets de l'Ancien Testament. Elle s'appuie sur eux. C'est en soi miraculeux, car ils n'essayaient pas d'être exacts à 100%. Ils paraphrasaient simplement ce qui se trouvait dans l'Ancien Testament. Bien sûr, lorsqu'ils écrivaient, ils n'avaient pas les rouleaux sous les yeux pour dire, d'accord, c'était si soudain. Ils auraient fait ce que vous et moi faisons lorsque nous parlons, par exemple, du fait que la Bible dit que quelque chose a été raffiné cette fois, ou que le Nouveau Testament envoie la transgression de la loi. Je paraphrase ces versets, et c'est ce qu'ils ont fait dans leurs écrits. Mais cela aurait normalement conduit à des contradictions et à des erreurs qui auraient contredit ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas le cas. Cela a construit et renforcé l'Ancien Testament pendant des milliers et des milliers d'années. Revenons à Daniel. Regardez-en quelques-uns de plus. Vous commencerez à tomber sur des éléments que vous ne pouvez tout simplement pas expliquer. Daniel, chapitre 5. Vous connaissez probablement ce chapitre. Je vous laisse le chercher. Daniel, chapitre 5. Verset 25. 5. 25. Allez au milieu du récit. Et voici l'écriture qui a été écrite, Men, Men, Tekel, ou Pharsin. Voici l'interprétation de la chose, Men, Dieu a compté ton royaume, et il l'a achevé. Puis 27, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé déficient, et ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Vous savez ce qui est étonnant? Je me souviens de cela depuis des années, car c'était un verset que j'avais retenu lorsque j'étais athée et que j'aimais débattre avec les créationnistes. C'était un verset qui était utilisé pour montrer que la Bible contenait des contradictions, qu'elle n'était pas historiquement exacte. Car il n'y avait aucun récit de Était-ce Belshazzar? Je vais retrouver les mots aujourd'hui. Il n'y avait aucun récit le mentionnant comme roi. Et je me suis dit, comment est-ce possible? C'est écrit dans la Bible. Donc, la Bible est fausse. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle, puis plus tard, que l'on a découvert à Babylone des cylindres qui faisaient référence à deux rois, Nabonidès et son fils Belshazzar. et ce document mentionnait spécifiquement qu'ils régnaient ensemble. Ils agissaient donc tous deux en tant que rois, ce qui est logique si l'on pense à la suite du récit de Daniel. Daniel, je crois que c'est dans Daniel 5 ou 7, parle du fait qu'il a reçu la troisième position. Daniel a reçu la troisième position dans le royaume. Comment pouvait-il obtenir la troisième position si elle lui était donnée par celui qui aurait dû occuper la première position? Il a donc obtenu la position la plus élevée après le roi, mais la Bible la décrit comme la troisième position, car il y avait deux rois qui régnaient ensemble. La position la plus élevée après celle du roi était donc la troisième position. C'est pourquoi le rôle de Daniel était si important. Mais pendant de nombreuses années, les gens ont lu ce passage et ont dit « Ah, vous voyez, la Bible n'est pas exacte. La Bible ne dit pas tout, mais il fallait à la fois l'exactitude de ces rouleaux ou des cuneiforma, et aussi pouvoir disposer des détails qui montraient qu'il n'y avait pas qu'un seul roi. Non, ils étaient co-régents. C'est pourquoi Daniel a obtenu la position la plus élevée ou a reçu la position la plus élevée dans ce royaume sous les rois. Pourquoi est-ce important? Eh bien, cela montre que le contexte historique de la Bible est exact. Cela montre à quel point les petits détails ont contribué à l'exactitude de ce livre. Nous cherchons, trouvons, creusons et découvrons divers aspects pour montrer l'histoire, comment les gens s'enthousiasmant à trouver un rouleau, une cuneiforma, un monument ou tout autre élément leur permettant de comprendre un élément de l'histoire. Tout est écrit. Tout est là. Et chaque fois que nous en apprenons davantage, nous découvrons de nouvelles choses ou faisons de nouvelles découvertes. Cela ne fait que renforcer le livre. Mes frères, Dieu vous a donné accès à une connaissance que personne d'autre ne comprend. Il s'empare de cela sans comprendre ni apprécier, comme vous et moi le pouvons avec l'Esprit de Dieu, à quel point la Bible est unique, à quel point ce document est unique, sans parler du fait qu'il est inspiré par Dieu. Sans parler du fait qu'il s'agit du mode d'emploi de l'humanité. Si ce livre traitait de l'entretien des chevaux, s'il avait été écrit par 40 auteurs au cours de plusieurs siècles et s'il avait traversé des milliers d'années, ce serait quand même un livre extraordinaire. Ce serait impossible. Mais pas quand Dieu dit « Non, je vais maintenir ma parole. Je la garderai à travers les âges. » Passons au deuxième livre des rois. Abordons certains de ces événements historiques. Je vais examiner certains éléments où nous introduisons des monuments et des parchemins, ainsi que divers autres objets extérieurs provenant de périodes qui ont renforcé la Bible. Encore une fois, cela montre que son histoire est exacte, car un élément central est de s'assurer que la Bible ne contient pas d'erreurs. Si elle contient des erreurs, alors ce n'est pas la parole de Dieu. La norme est très élevée. Saviez-vous qu'il existe une norme en pourcentage, une marge d'erreur acceptable, si vous voulez, pour l'Encyclopédia Britannica? Ils autorisent un certain niveau d'erreur, car il est naturel qu'il y en ait. Des erreurs se produisent, des fautes d'impression, quelqu'un cite mal ses sources, et pourtant, c'est une encyclopédie considérée comme cruciale. C'est tellement grave que sur certains sujets importants, Wikipédia est plus précise que Britannica. La norme n'a donc pas besoin d'être parfaite pour Britannica, Wikipédia ou tout autre historien. Ils ne sont pas tenus de respecter une norme de perfection. Mais la Bible, si. Si elle n'est pas parfaite, s'il y a des erreurs de traduction, oui, mais si elle n'est pas parfaite, alors ce n'est pas la parole de Dieu. Cela en dit long. C'est une norme très élevée à respecter. Deuxième livre des rois, vous y êtes probablement. Chapitre 8. Deuxième livre des rois, chapitre 8. Nous commencerons au verset 16. Deuxième livre des rois, chapitre 8, Verset 16. La cinquième année du règne de Joram, fils d'Achab, Achazia commença à régner sur Juda. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. C'est important. Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Achab, et sa mère était sa conseillère pour faire le mal, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, etc. Le fils ou la fille d'Omri, roi d'Israël. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'on a trouvé un monument moabite datant d'environ 840 avant Jésus-Christ. Il est si précis dans le temps qu'il fait référence à Omri et à la maison d'Israël, exactement comme cela est décrit ici dans le deuxième livre des rois. En fait, la plupart du temps, c'est quand Israël allait mal. Les historiens disent quoi? Que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc, en général, les récits qui corroborent la Bible sont souvent ceux où Israël et Juda ont commis des erreurs et où Dieu les a laissés se faire conquérir et mettre en captivité. Et quand ils ont perdu la guerre dans laquelle ils étaient engagés, eh bien, ceux qui ont gagné ont voulu le consigner par écrit. Nous avons vaincu Israël. Il s'agissait donc essentiellement de se vanter d'avoir vaincu Omri, le roi d'Israël. Ce monument est appelé le monument de Mcha, du roi Mcha de Moé. Il existe un autre monument, égyptien, sculpté par un pharaon qui relate ses campagnes en Canaan. Et surtout, c'est l'une des premières mentions extra-bibliques de références historiques à la Bible, car elle a été découverte en premier. Elle date d'environ 1208 avant Jésus-Christ, cela remonte donc très loin, mais c'est la première mention extra-biblique d'Israël en dehors de la Bible. Il semble évident qu'Israël est mentionné dans la Bible. Vous et moi croyons en la parole de Dieu. Si vous vous engagez dans cette voie ou essayez de la prouver, ces liens historiques sont très importants, car la plupart des gens rejettent l'Ancien Testament. Même les personnes qui croient au Nouveau Testament ou qui professent leur foi rejettent l'Ancien Testament comme de la vieille littérature hébraïque ou du folklore hébreu, car elles ne croient pas au déluge. Elles ne croient pas à la création. Elles rejettent l'exactitude de l'Ancien Testament. Et c'est un peu humiliant, même pour les chrétiens pratiquants, lorsqu'ils découvrent « Attendez une seconde, ce récit était exact. » Oh, regardez, Pharaon a bien renversé Omri, le roi d'Israël. Ou encore, lorsque les mots sont traduits, on peut lire, Israël est dévasté. Sa descendance n'est plus. Il ne savait pas que Dieu suivait simplement son cycle. Israël monte, Israël descend. Il y en a une autre, appelée l'inscription de Tel Dan, qui date environ du 9e siècle avant Jésus-Christ. Il montre un roi arménien triomphant du roi d'Israël, la maison de David. C'est intéressant, car c'est l'une des premières fois où une source extérieure fait référence à la royauté de David dans la Bible, car il n'y a pas beaucoup de notes historiques. Et c'est aussi ce qui rend la Bible si extraordinaire. Nous avons donc ces petits fragments qui font référence à des personnages et à des passages de la Bible, car nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais nous avons ce livre qui est exact depuis des milliers d'années. Des milliers d'années. C'est ce qui nous a été donné. En voici un autre. Allons dans le deuxième livre des Chroniques. Le chapitre 32, vers la fin du deuxième livre des Chroniques. Verset 30, chapitre 32, verset 30, le même Ézéchia boucha le cours supérieur du Gion et le fit descendre vers l'ouest de la ville de David. Et Ézéchia prospéra dans toutes ses œuvres. D'accord. C'est juste une petite référence qui a été trouvée dans un tunnel dont l'existence n'a été découverte que récemment. Quand ils ont découvert le tunnel, Ils ont fini par le dégager parce qu'il était complètement bouché. Une fois dégagé, ils ont trouvé une inscription, l'inscription de Siom, qui, en hébreu ancien, décrit le moment exact où les deux équipes se sont rencontrées et où les tunnels se sont rejoints. Ils ont creusé de chaque côté et se sont rencontrés au milieu, ce qui est remarquable quand on n'avait pas le GPS ni toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Ils ne pouvaient donc pas creuser trop haut, ni trop bas, ni trop à gauche ou à droite, mais ils se sont rencontrés. Puis quelqu'un a gravé sur la pierre comment ils se sont rencontrés et ce qui s'est passé. Et c'est là. Cela a été enterré, et maintenant nous pouvons lire ce récit. Encore une fois, des milliers d'années ont passé. Il y en a un autre, appelé le prisme de Sennacherib. C'est un livre écrit par cet ancien roi assyrien, qui raconte comment il a capturé Ézéchia comme un oiseau dans une cage, selon ses propres termes. Si vous vous arrêtez pour lire les chapitres 18 et 19 du deuxième livre des rois, vous verrez que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais encore une fois, il faut perdre pour que d'autres puissent écrire votre histoire. Cependant, ces pertes nous permettent aujourd'hui de voir à quel point la Bible reste précise dans toutes ses différentes références. Bon, passons maintenant au Nouveau Testament. Jean 5. Chapitre 5 de Jean. Vous vous dites, d'accord, je comprends, Monsieur Chelofé, la Bible est exacte. C'est la deuxième chose que vous perdez après avoir perdu l'Église. Mais si vous fortifiez la Bible dans le Nouveau Testament, vous allez perdre la Bible. Vous allez perdre la Bible. Vous allez perdre la Bible. Vous allez perdre l'Église. Mais si vous renforcez la Bible, vous renforcez votre compréhension de l'Église de Dieu. Vous prouvez davantage l'existence de Dieu, ce que nous ferons dans mon prochain sermon. Vous renforcez la Bible, ce qui signifie que vous renforcez votre compréhension de l'Église de Dieu. Tout cela fonctionne ensemble. C'est pourquoi on les étudie avant le baptême, afin que vous et moi sachions dans quoi nous nous engageons et ayons cette base solide. Et de temps en temps, il est bon de rafraîchir le de cette base. Cela l'aide à durer plus longtemps, à être plus solide. Jean, chapitre 5. Verset 1. Après cela, il y a eu la fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Ils sont maintenant à Jérusalem, près du marché aux moutons, une piscine appelée en hébreu Bethida, qui a 5 portiques. Souvenez-vous bien, 5 portiques. Et il y avait là une grande foule d'infirmes, d'aveugles, d'estropiés, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans la piscine et agitait l'eau, et ceux qui y descendaient aussitôt étaient guéris. Or, il y avait là un homme, verset 5, qui était infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et il savait qu'il était malade depuis longtemps. Il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et vous connaissez la suite. Il répondit, « Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me lever. Personne ne m'aidera. » Et alors Christ le guérit. En grec, cela signifie « maison de la bonté ». On s'est demandé jusqu'à récemment, au cours des 50 ou 70 dernières années, si cela n'avait jamais existé. Des fouilles ont été menées, comme à Jérusalem, car vous savez, dans les vieilles villes, quand on construit, on démolit tout. On tasse le sol, puis on construit par-dessus. On démolit, on tasse. Il y a donc couche après couche, et les villes s'élèvent de plus en plus hautes au fil du temps. Mais cela signifie qu'il y a quelque chose en dessous, si on creuse avec précaution, et c'est ce que font les archéologues. Les fouilleurs ont donc mis au jour un tunnel profond et complexe comprenant deux bassins et des traces de colonnes anciennes qui correspondaient parfaitement à cette description. En poursuivant leurs fouilles, ils ont découvert des formations qui formaient cinq bassins. Puis ils ont continué avec ces deux bassins, excusez-moi, puis cinq porches autour de ces bassins. Exactement comme dans le récit de Jean. Jusque dans les moindres détails. Car n'oubliez pas que les éléments clés étaient la précision des détails. Nous avons commencé tôt avec Luc et Jean, et d'autres, et Paul qui ont consigné les moindres détails. Si vous n'essayez pas de, si vous essayez de me tromper ou de vous tromper vous-même, vous auriez omis les détails, car c'est là que vous vous trompez. C'est là que vous vous faites prendre. Alors pourquoi tant de détails ont-ils été donnés? Et vous pouvez imaginer l'état d'esprit des auteurs lorsqu'ils ont écrit cela. Ils ont trouvé des bains publics qui avaient un rapport avec cela. Ils ont trouvé d'autres canaux. Et tout ce récit a été vérifié en déterrant ces bassins, ces porches et ces colonnes, et tout ce qui aurait pu être exact à l'époque de Jean. D'accord. Vous pouvez rejeter tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Nous sommes dans une situation où vous pouvez dire, eh bien, monsieur Chelofé, c'est de l'histoire. D'accord, très bien. La Bible est un bon livre d'histoire, précis. Ou bien la Bible ne contient aucune erreur. C'est très bien. C'est bon à savoir. Et cela en fait-il la parole de Dieu? L'Esprit de Dieu. Et vous répondrez probablement oui. Mais si vous êtes sceptique, soyez sceptique un instant et dites, d'accord, je ne sais pas. Vous vous prouvez à vous-même. Vous utilisez donc la Bible pour se prouver elle-même. C'est un raisonnement circulaire. Cela ne tiendrait pas dans un débat logique. Vous avez dit que la Bible était la parole de Dieu parce qu'elle contenait par hasard des détails historiquement exacts, ou que des détails historiques étaient exacts. Et il y avait d'autres choses dont elle parlait et dont nous avons découvert qu'elle existait réellement, ces piscines et ces porches. Mais je n'y crois pas. Cela signifie simplement que c'est un bon livre d'histoire. Cela signifie simplement que quelqu'un a fait un très bon travail pour le rendre exact. Bien sûr, la probabilité que cela soit vrai et tout ce dont nous avons parlé auparavant ne sont pas rejetés. Mais maintenant, nous allons changer de sujet. Tout ce que nous allons aborder dans le temps qui nous reste, nous allons examiner des choses qui sont impossibles, à moins qu'il ne s'agisse de la parole inspirée de Dieu. Passons donc à Ésaïe. Vous connaissez la plupart de ces passages, mais vous ne les avez pas replacés dans le contexte dans lequel nous les plaçons aujourd'hui. Ésaïe 46, une petite introduction, puis nous continuerons. Verset 9, Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous des choses anciennes, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre comme moi. Verset 10. Je déclare dès le commencement ce qui n'est pas encore fait, et je dis, mes desseins s'accompliront, et je réaliserai tout ce qui me plaît. J'appelle du levant un oiseau de proie, un homme qui exécute mes ordres depuis une terre lointaine. Oui, je l'ai dit, je le ferai. Je l'ai décidé, je le ferai. Dieu seul est l'être qui peut dire les choses avant qu'elles n'arrivent, puis les faire arriver. Aucun prophète, aucun texte religieux, aucun document de ce genre. En fait, vous avez des fous qui essaient de prédire les choses, et ils doivent les modifier et les ajuster. Et souvenez-vous de Nostradamus, on en parle souvent. Maintenant, cela s'applique. Non, Dieu a dit, si je dis quelque chose, cela arrivera. Bon, voilà pour le contexte. Passons maintenant à Daniel. Vous n'avez pas le temps de lire tout le récit ici, mais nous allons le parcourir rapidement. Daniel, chapitre 2, excusez-moi. Encore une fois, nous prenons cela pour acquis. Lorsque vous avez été appelé, C'était l'une de ces choses ahurissantes lorsque la Bible a été rendue si claire. Daniel chapitre 2, verset 27. Verset 27 de Daniel 2, Daniel répondit en présence du roi et dit, « Le secret que le roi a demandé, les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne peuvent le révéler au roi. » Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les derniers jours. Ton rêve et les visions de ta tête sur ton lit sont les suivants. Daniel dit, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu dans les cieux qui peut révéler ces choses. Ces choses qui arriveront dans l'avenir. » Et Dieu dit à Nebuchadnezzar, « Tu es la tête d'or. » L'argent et le fer descendent le long du corps, les pieds qui sont enfoncés dans la boue, et il poursuit en décrivant que ce seront des royaumes. Ce seront des royaumes successifs qui régneront sur le monde, l'un succédant à l'autre, comme vous le verrez avec les Babyloniens, les Médo-Perses, les Grecs et les Romains. Les grands empires mondiaux ont été annoncés des centaines d'années à l'avance. Il n'y a ni modification ni interprétation. Il dit simplement ce qui va se passer, et cela se passe. Des centaines d'années à l'avance. Enfin, il décrit ce qui était à l'époque un concept étranger au roi Nebuchadnezzar, mais une pierre taillée sans le secours d'aucune main. Il s'agit évidemment du royaume de Dieu, qui brise ses pieds, et cet homme, lorsque le royaume de Dieu viendra sur terre. C'était une prophétie qui a été enregistrée dans Daniel des centaines d'années avant qu'elle ne se réalise. Vous la connaissez si bien. Pensez-y, la tête de fer ou l'homme de fer. Vous pouvez penser aux images dans nos livrets. Mais vous et moi, il est si facile de considérer cela comme acquis, comme une simple connaissance, parce que cela décrit ces royaumes et nous aide à comprendre le roi. Mais cela a été dit des centaines d'années avant que ces royaumes n'existent. Peu importe que le royaume de Dieu ne soit pas encore là, il a vu les Romains à toutes ces époques. C'est une prophétie. Passons à une autre, toujours dans Daniel, au chapitre 9. Encore une fois, c'est une prophétie que vous et moi tenons pour acquise parce que nous la lisons tout le temps, surtout lorsque nous examinons les événements prophétiques d'aujourd'hui. Daniel 9, verset 24. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. La prophétie des 70 semaines. Et pour faire la réconciliation pour l'iniquité, pour apporter une justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Et cela continue, sachez donc et comprenez que, depuis la sortie de la parole qui ordonnait la restauration et la reconstruction de Jérusalem, le Messie, le Prince, sera de 7 semaines. Vous connaissez ce récit. 62 semaines, et la rue sera rebâtée, et le mur, en temps de détresse. Après 62 semaines, le Messie sera retranché, mais non pour lui-même, et le peuple du prince sera détruit, et la ville sera détruite, et le sanctuaire sera détruit, et la fin sera venue. Et cela continue. Nous pouvons souvent nous pencher sur ce passage parce que nous essayons de comprendre la dernière semaine. Mais nous oublions que les 69 premières semaines avaient déjà eu lieu et avaient défini exactement l'année où Christ viendrait, où il mourrait et où Jérusalem serait détruite. C'est impossible. C'est en fait l'un des versets qui pose problème même aux sceptiques de la Bible, car on ne peut pas deviner aussi longtemps à l'avance et être aussi précis que dans la prophétie des 70 semaines. La seule façon de le savoir à l'avance est d'être un être qui existe en dehors de l'espace et du temps, qui peut voir toute la chronologie de l'humanité et dire, « Je veux que tu, Daniel, enregistre cela. » Car à un moment donné, les gens seront émerveillés, comme nous le sommes aujourd'hui, de la précision avec laquelle je peux prédire des événements qui se produiront des centaines et des centaines et des milliers d'années à l'avance. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Il n'existe aucun autre livre comme celui-ci. Il n'existe aucun autre ensemble d'articles, d'histoires ou de lettres qui, mis ensemble, forment l'image que Dieu nous donne dans ce manuel d'instruction. C'est simplement un cadeau qui nous a été fait. Vous pouvez penser à d'autres prophéties. Nous n'avons pas le temps de toutes les aborder aujourd'hui. Nous voulions tout présenter, mais nous n'avons pas encore terminé. Nous avons encore du temps. Parce que vous pouvez utiliser les prophéties pour prouver la Bible. Nous en avons examiné quelques-unes. Allez à autorité biblique. Peut-on le prouver? Relisez ce livret. Vous y trouverez d'autres éléments. Mais il y en a un que j'apprécie particulièrement. Vous m'avez déjà entendu en parler. Allons à Job 26. Cela signifie que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est exact. Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Job, chapitre 26, verset 7. Verset 7 de Job, chapitre 26. Allons-y. Il, Dieu, étend le nord sur le vide et suspend la terre sur rien. Cela signifie suspendre. Suspendre, suspendre. Ce n'est donc pas une façon sophistiquée d'utiliser le mot. Nous avons donc ici Job, plusieurs milliers d'années avant que nous ayons la moindre idée du fonctionnement de l'univers, de qui tourne où, de ce qui tourne autour. C'est encore plus récemment que nous avons vraiment compris comment nous nous inscrivons dans la Voie lactée et comment tout l'univers s'articule pour bouger, se former et s'étendre, avec tous les éléments de l'espace. Pourtant, ici, dans un simple verset du livre de Job, il est écrit que la Terre est suspendue dans l'espace. Elle est suspendue et ne repose sur rien. Ce n'était pas ce que les gens croyaient à l'époque. À l'époque, on croyait qu'il y avait quelqu'un sous la Terre qui la soutenait. Vous avez vu ces statues, et je suppose que les Grecs qui s'appuyaient dessus et d'autres pensaient que c'était des dragons. Il y a tellement de choses différentes qui se sont produites au cours de l'histoire parce que le concept de rien n'existait même pas à l'époque. L'idée du zéro ou du néant n'était pas vraiment présente ou réfléchie. Pendant combien de temps? 700 ans après. L'idée de suspendre la Terre dans le néant aurait donc été si étrangère et impossible à concevoir pour un esprit que personne n'y aurait pensé. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Mes frères, c'est impossible, à moins qu'il n'y ait un être qui ait créé ses lois, qui ait créé l'univers, qui ait placé la Terre à l'endroit parfait. Plus on étudie l'univers, plus on se rend compte qu'il doit être précis. Si la Terre était un peu plus grande, un peu plus petite, si la Lune était un peu plus proche, un peu plus éloignée, n'importe laquelle de ces variables changerait. Nous ne serions pas suspendus. Nous nous écraserions. Soit la Lune s'écraserait sur nous, soit nous ferions un lent tourbillon vers le Soleil. Mais Dieu a dit, « Non, je vais la suspendre. » Si vous mettez votre chemise sur un cintre et que vous la suspendez, elle ne bouge pas. C'est ce que Dieu a fait avec la Terre. Il l'a suspendue dans l'espace, quelque chose qui était inconcevable pour l'esprit ancien. C'était inconcevable il y a 2000 ans. Peu importe quand cela a été écrit, il y a environ 3500 ans. Seule l'inspiration divine peut faire cela. Ecclésiaste 1. C'est amusant, car souvent, la science moderne tente de réfuter la Bible. C'est donc un peu une joie pour moi d'utiliser la science pour la prouver lorsque la science moderne veut la réfuter. Mais il n'y a pas de réponse à ces questions, car ce sont parmi les plus simples. J'ai donné une série de deux sermons sur la science dans la Bible. Je vais donc juste en citer quelques-uns parmi les plus importants. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 7. Encore un autre exemple extrêmement simple. Verset 7, tous les fleuves se jettent dans la mer. Cela n'était pas compris, mais c'est devenu plus complexe. Et pourtant la mer n'est pas remplie. Au lieu d'où viennent les fleuves, c'est là qu'ils retournent. Que décrit ce passage? L'eau se déverse dans la mer, puis elle revient à son point de départ, où elle forme des nuages, puis retombe sous forme de pluie, et le cycle hydrologique se poursuit. Ce phénomène se répète à l'infini, car personne ne comprenait comment l'océan pouvait ne pas se remplir de plus en plus, alors que toute cette eau s'y déversait. On ne comprenait pas l'évaporation et tout le processus d'évaporation, de condensation, de précipitation, puis de retour vers l'océan. Cela a été compris et écrit ici dans l'Ecclésiaste, 2500 ans avant que l'homme moderne ne le découvre. 2500 ans. Encore une fois, mes frères, cela serait impossible sans Dieu. Cela n'est écrit dans aucun autre livre. Cela n'est écrit dans aucun autre rouleau. Cela n'a pas été écrit et transmis au fil du temps dans ces deux faits. Cela est écrit dans la parole de Dieu, qui n'a pu être construite que s'il existe un Dieu qui a décidé de la préserver, de l'inspirer, d'y inclure ses faits, ses détails. Sinon, cela serait impossible. Encore une fois, ce livre devrait vous sembler très différent à la fin de notre étude d'aujourd'hui. Ce qui nous a été donné, ce que nous pouvons comprendre à partir de ce livre, la connaissance, la vérité, tous les aspects qui peuvent parfois nous sembler flous et nous dérouter à l'ère moderne, alors qu'au fond, nous avons accès à un livre écrit par le Dieu qui a créé la terre, qui l'a suspendue, qui a créé le cycle hydrologique, qui a fait toutes ces choses, l'univers, nous avons accès au livre qu'il a écrit. Nous avons accès au mode d'emploi de l'humanité rédigé par celui qui a créé l'homme. C'est pourquoi vous prouvez que la Bible est la parole de Dieu, car personne d'autre n'aurait jamais pu faire cela. C'est un livre unique, une connaissance unique. Regardons-en un autre ici. Le psaume 8. Le chapitre 8 du psaume. Nous avons encore le temps d'en voir quelques-uns. Au verset 8. Psaume 8, verset 8. Les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Cela signifie sentier. Les sentiers de la mer. Cela a inspiré Matthieu Maury au XIXe siècle. Il a lu ce verset et s'est demandé, que signifie « sentier de la mer » Il a alors décidé de partir à leur recherche et a découvert que les océans ont des courants. Car la Bible, encore une fois, des milliers d'années avant que nous comprenions cela, disait non, non, il n'appelait pas cela des courants de mouvement. Nous appelons le mouvement des courants, mais ce sont des chemins. Si vous regardez le jet stream et que vous voyez ce qu'il fait à l'air lorsqu'il rencontre ses courants, sans parler des courants marins, ou si vous prenez un bateau ou n'importe quoi d'autre et que vous le laissez dériver, c'est pour cela que vous retrouvez des objets qui ont dérivé à travers l'océan en Californie ou sur la côte est, parce qu'ils suivent les chemins de la mer. Et nous voici dans le psaume, où cela est consigné, encore une fois, depuis des milliers et des milliers d'années. Celui-ci a été écrit par David. C'est impossible. Pensez à ce que sont les psaumes. Ce n'était qu'une chanson. David a donc écrit une chanson, manifestement inspirée par Dieu, qui contenait des connaissances scientifiques qui ne seraient pas comprises avant des milliers d'années. Et ce n'était qu'une chanson. J'ai un fils. Nous inventons des chansons, nous chantons. C'est comme si je trouvais au hasard une théorie sur la fusion froide. Il a simplement noté la chanson. Et pourtant, Il s'agit d'une connaissance tirée de la Bible qu'il nous a fallu attendre le 19e siècle pour comprendre. Je pense que je peux en ajouter un autre, Lévitique. Lévitique 13. Vous comprenez probablement pourquoi j'ai fait cela aujourd'hui en regardant les auteurs, ce qu'ils ont dit et comment ils ont parlé de la Bible, pourquoi ils se souciaient de la Bible, ce qu'ils pensaient de la Bible, de sa préservation, de leur désir de la garder là où elle était. Parce qu'une fois arrivés ici, vous et moi devrions ressentir exactement la même chose. Nous ne devons pas considérer cela comme un simple livre. Oui, nous pouvons les imprimer et en obtenir davantage aujourd'hui. Mais les mots, la connaissance, la compréhension sont précieux. C'est pourquoi ils ont été si prudents. C'est pourquoi ils y ont réfléchi encore et encore. Lévitique, chapitre 13, verset 45. Verset 45. Le lépreux atteint de la plaie aura ses vêtements déchirés ou retirés, et sa tête sera nue. Il perd donc ses vêtements, se rase la tête, et il mettra un bandeau sur sa lèvre supérieure, et il criera « Impur, impur !» Oh, être un pauvre lépreux! Imaginez que vous êtes en gros. J'espère que vous aviez quelque chose pour vous couvrir après avoir enlevé vos vêtements dans ce cas, mais cela n'est pas précisé dans le passage. Non seulement cela, mais on lui mettait aussi quelque chose sur le haut de la lèvre, un masque. Pensez-vous que cela couvrait le haut de sa lèvre? Parce qu'il était sur le point de parler et de dire impur, impur. On essayait donc d'empêcher les germes de sortir de sa bouche, en lui enlevant ses vêtements et ses cheveux pour se débarrasser des germes qui auraient pu se propager à d'autres personnes. Et il dit, impur, impur, éloignez-vous de moi. Je ne suis pas en sécurité tant que je n'ai pas guéri de cette lèpre. Verset 46. Tant que la plaie sera sur lui, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, hors du camp, donc à l'extérieur du camp. Là sera sa demeure. Nous allons te mettre en quarantaine parce que tu es malade. Il a fallu 3000 ans pour que les gens comprennent comment fonctionnent les germes. 3000 ans pour comprendre. C'est pourquoi les Juifs ont été blâmés à maintes reprises au cours de l'histoire, parce qu'ils suivaient ces lois qui ne pouvaient venir que de Dieu, qui étaient écrites dans un livre qu'il avait inspiré. Mais les gens les regardaient et disaient, « Oh, c'est sûrement eux qui ont causé cette peste noire ou cette maladie, parce qu'ils suivaient ces lois de quarantaine. » Et quand quelqu'un était malade, il était expulsé du camp. Et on a compris comment les infections et les bactéries se transmettaient. Je ne suis pas entré dans les détails de leur fonctionnement, mais Dieu a dit, « Voici ce que vous devez savoir pour résoudre le problème. » Encore une fois, des milliers d'années avant, nous en sommes venus à le comprendre aujourd'hui. Mes frères, le livre que vous avez sur vos genoux, le livre que j'ai devant moi ici, est inspiré par Dieu. Il nous a été donné par notre Créateur. Il contient les faits, les textes et les mots les plus profonds, quelle que soit la façon dont vous voulez les définir, rassemblés sous une couverture, sous une reliure, auxquels nous avons accès ou auxquels nous aurons accès. Ce sont les instructions sur la façon dont vous et moi devons vivre. Ce sont des instructions sur la manière dont nous pouvons grandir, dont nous pouvons forger notre caractère. Dans tout le message d'aujourd'hui, nous n'avons pas parlé des doctrines, des enseignements, de la vérité, de tous ces éléments que nous tirons de la Bible, car ils n'ont aucune importance si nous ne pouvons pas prouver la véracité de la Bible. Ils n'ont aucune importance. Ils ne s'appliquent pas. Nous avons donc commencé aujourd'hui. Nous avons recherché certains de ces témoins oculaires. Nous les avons examinés. Nous avons essayé de déterminer, en nous référant à leur sérieux, comment les éléments se sont déroulés tout au long de la Bible. Nous avons vu que Christ a fait la même chose. Il a pris du recul et a dit, « Non, je me réfère à la Genèse. Je me réfère à la création. » Toutes ces choses se sont accomplies. Tous les éléments qu'il a dit qu'il ferait eurent été accomplis. Ces centaines de prophéties sur Christ, il les a accomplies. Nous avons examiné avec quelle minutie la Bible a été canonisée, tous les détails. Nous n'avons pas ajouté de livres supplémentaires. Les seuls à avoir ajouté des livres sont les catholiques. Tous les autres s'accordent sur la même Bible. C'est étonnant, car d'autres manuscrits auraient pu être introduits. Les gens ne sont pas un peu ceci, un peu cela. Non. Ce sont ces mots, ces livres, ces chapitres, et cela a été formé jusqu'aux pointes où vous arrivez à l'Apocalypse, et l'Apocalypse dit, « Bon, c'est fini. N'ajoutez rien. N'enlevez rien. » Qu'a fait l'Église catholique? Elle a ajouté tout un tas de livres. Ensuite, nous avons examiné à quel point il aurait été compliqué pour tous ces auteurs, au cours de cette période, de créer un message unifié, à quel point cela aurait été impossible à faire en plusieurs milliers d'années. Puis nous avons pris du recul, nous avons examiné l'archéologie pour connaître l'histoire, nous avons vu qu'elle était historiquement exacte, puis nous avons examiné comment les prophéties s'articulaient pour prouver que la Bible avait prédit des choses qui auraient été impossibles autrement. Enfin, nous avons examiné certains aspects scientifiques, alors que la Bible parlait d'éléments scientifiques qui ne seraient découverts que des milliers et des milliers d'années plus tard. Tout cela nous permet de nous arrêter et de regarder avec confiance ce livre sur nos genoux et de savoir, mieux maintenant, espérons-le, qu'au début de cette journée, que ce ne sont pas les paroles de l'homme, mes frères. Ce livre n'est pas la parole de l'homme. Ce livre, celui que vous avez, celui que j'ai, celui que nous pouvons emporter avec nous sous forme numérique ou physique, ce livre est la parole de Dieu.